La mêlée de l'info. Une émission de débat sur l'actualité nationale, animée par Éric Dupri.
Bienvenue à l'écoute de Radio Présence et de la mêlée de l'info. Merci d'être fidèle à notre rendez-vous hebdomadaire avec l'actualité nationale. Aussi ceux qui ont accepté de débattre ensemble aujourd'hui. Bienvenue aussi à Sandrine Floreus, vice-présidente du conseil départemental de la Haute-Garonne, membre du Parti Socialiste. À Jean-Baptiste de Scorail, adjoint maire de Toulouse, conseiller communautaire de Toulouse Métropole, conseiller départemental de la Haute-Garonne et membre du parti Les Républicains. Et puis nous attendons Sébastien Nadeau, historien et écrivain, ex-député LREM de la Haute-Garonne. Il est normalement en cours d'arrivée, donc j'espère qu'il nous rejoindra avant la fin de cette émission. Merci à vous trois d'avoir accepté mon invitation à débattre dans un premier temps du contenu de la longue interview qu'Emmanuel Macron a accordée lundi à nos confrères de RMC BFM TV, 100 jours avant le début des Jeux Olympiques à Paris. Outre l'imminence de ce grand événement de l'année 2024 en France, auquel il a consacré bien sûr une grande partie de cet entretien, en s'exprimant notamment sur les inquiétudes liées aux risques d'attentats, aux menaces de grève dans les transports ou aux coûts de la manifestation pour les finances publiques, le chef de l'État a également réagi à l'attaque menée par l'Iran en Israël. Qu'est-ce que vous avez retenu et pensé de son intervention de manière générale? Et vous a-t-il convaincu quant à la réussite et le bon déroulement de ces JO à Paris? Je rappelle que ce sont les premiers à avoir lieu en France depuis un siècle. Et nous commençons avec Sandrine Floreus.
Alors, globalement, j'ai toujours une grande distance vis-à-vis aujourd'hui des propos d'Emmanuel Macron. Parce que, quels que soient les sujets, pardon de le dire, et je ne voudrais être ni polémique ni caricaturale, mais tout simplement et modestement dans mon rôle d'élu local, je constate un fossé énorme entre les grandes déclarations d'Emmanuel Macron et après la réalité de ses actions gouvernementales. Donc, je vais répondre à votre question sur les Jeux Olympiques, mais je voudrais vous donner un exemple pour corroborer ce que je dis et pour vous dire à quel point j'ai du mal à avoir confiance et non pas à ne pas prendre au sérieux ce qu'il dit, parce que ça serait désacraliser sa fonction et ça serait irrespectueux, mais il y a quand même un très grand fossé entre ce qu'il annonce et ce qu'il fait. Je voudrais juste vous donner un exemple qui, moi, me touche personnellement dans les délégations que j'ai au conseil départemental. Il a fait de son deuxième quinquennat, comme il avait fait du premier, il a choisi un thème fort qui est la lutte contre les violences faites aux femmes. Or, pour être au cœur de cette thématique au conseil départemental de la Haute-Garonne, tous les jours, on voit la baisse des subventions, la baisse des aides aux associations, la baisse des aides de l'État, qui a du mal à suivre dans les projets que nous comportons, comme l'Observatoire des violences faites aux femmes. Tout ça pour dire que c'est très compliqué d'écouter ce qu'il dit avec de la confiance. Après, on peut ne pas être d'accord, et ça, c'est la démocratie, et c'est formidable. Avec Jean-Baptiste, je pense qu'on en aura des sujets de discussion. Mais vous voyez, globalement, quand il parle, quand il dit « je pourrais me baigner dans la Seine », je trouve ça lunaire, parce qu'aujourd'hui, toutes les analyses confirment que c'est encore un petit peu compliqué, que c'est encore vraiment dangereux. Et donc, on est dans la parole disqualifiée des hommes et des femmes qui s'engagent pour la démocratie et pour la République. Et moi, depuis quelque temps, mon problème avec Emmanuel Macron, c'est ça. C'est le discrédit de la parole publique. Et ça fait quelque temps. Et ça a une conséquence directe, factuelle que l'on observe. Ça s'appelle le taux d'abstention. Voilà, donc peu importe ce qu'il dit, mais après on va en reparler des Jeux Olympiques, il a quand même, moi j'ai du mal, j'ai du mal avec sa parole publique, même si je respecte bien sûr sa fonction de président de la République.
Oui, ce que vous avez remarqué, c'est qu'entre les paroles et les actes concernant Emmanuel Macron, et peut-être même son entourage de gouvernement, vous remarquez qu'il y a un certain écart dans la réalité. Jean-Baptiste de Scorail, vous, qu'est-ce que vous avez pensé d'abord d'une manière générale toutes les annonces qu'a pu faire Emmanuel Macron, des prises de position qu'il a pu avoir lors de cette interview?
Il a parlé en chef, ça c'est clair, enfin en président de la République, en annonçant un certain nombre de choses. Mais je rejoins Sandrine sur le fait que, comment faire confiance à quelqu'un sur les chiffres. Je parlerai en particulier en disant que les Jeux Olympiques seraient une opération blanche, je l'espère. Sauf que quand on voit le déficit et qu'on nous a menti sur le déficit de la France, on se dit que est-ce qu'on va croire le président de la République là-dessus ? Bon, maintenant, je dirais, la fête arrive, que la fête soit belle. Et c'est là-dessus qu'on va parler tout à l'heure. Mais je suis aussi dubitatif et j'ai du mal à faire confiance au président de la République sur les annonces qu'il fait.
Bon, ce sont des effets d'annonce, pour bon, le beaucoup, dire
clairement. Comme, c'est un peu la spécialité. Le Premier ministre aussi fait des effets d'annonce. Encore aujourd'hui, où il a annoncé des choses, mais pas comment on allait les réaliser. Donc c'est quand même c'est facile de faire des effets d'annonce. Mais maintenant, derrière, comment allons-nous réaliser les choses ? Bon, visiblement, d'un côté, on vous dit qu'on fera des Jeux Olympiques qui ne rapporteront à la France ou qui ne coûteront pas, mais d'un autre, on fait tout pour faire peur aux gens pour qu'ils viennent en France aux Jeux Olympiques, alors qu'on sait que ça va être une belle fête. Je pense que ça sera réussi parce que la France est quand même un pays qui organise en général très bien des grands événements. Donc maintenant qu'on est face au mur, il faut être positif et aller de l'avant. Mais j'ai du mal à croire M. Macron dans ses annonces de chiffres.
Sandrine Floros.
Oui, je voudrais, parce que c'est en lien avec le deuxième sujet que nous aborderons. Quand vous regardez aujourd'hui les prix d'accès pour assister à des spectacles, c'est en milliers d'euros les places, les packs. Et je me dis, mais est-ce qu'on n'aurait pas dévoyé l'esprit des Jeux Olympiques qui devaient être de grandes fêtes populaires pour montrer que le sport était une valeur universelle, accessible à tous ? Aujourd'hui, on n'en est pas là. Les coûts qui sont annoncés en milliards en termes d'infrastructures... alors moi je ne sais pas, j'espère que ça sera une opération blanche, mais je crois que c'est même plus le sujet. Aujourd'hui, cette fête, elle est réservée quand même globalement, aujourd'hui, à des hommes et des femmes qui ont les moyens de louer une chambre à Paris, de se déplacer quand on voit le prix des transports en commun qui vont doubler, tripler, quadrupler. Et avec des packs, regardez le prix des packs pour assister à cet événement extraordinaire. C'est en milliers d'euros. Enfin, de quoi parle-t-on ? D'une fête populaire ? Donc, c'est aussi en lien avec le deuxième sujet que nous évoquerons tout à l'heure. Je crois que nous avons dévoilé un certain nombre de grands événements et qu'aujourd'hui l'argent est roi et il va falloir remettre, si ce n'est l'église au centre du village, en tout cas la mairie.
On reviendra tout à l'heure sur l'aspect financier de ces Jeux Olympiques parce que Emmanuel Macron effectivement a dit, je reprends ces mots, les Jeux financeront les Jeux. On va voir ce que ça, on va essayer d'imaginer ce que ça peut vouloir dire. Bon, d'autre part, il a abordé vraiment plusieurs sujets. Il y a quelque chose qui relève de la géopolitique. Il a déclaré qu'il voulait tout faire pour avoir une trêve olympique pendant les Jeux à Paris, qui doivent être, là aussi je reprends ces mots, aussi un moment diplomatique de paix. Alors, je n'ai pas très bien compris ce que ça voulait dire, un moment diplomatique de paix. Bon, on sait que la guerre se poursuit en Ukraine et malheureusement aussi en Israël. Est-ce que vous croyez en sa capacité à réaliser là, le souhait qu'il a fait, donc d'avoir une trêve au moment des Jeux ? Mais bon, c'est un peu curieux, on va arrêter les combats, on les reprend 15 jours après, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Et dans quelle mesure c'est imaginable ? Est-ce qu'il a le poids pour arriver à ce qu'il a annoncé ? Jean-Baptiste de Scorail.
Moi, je ne le pense pas. Ça serait bien, effectivement, d'avoir une trêve comme on l'avait pu l'avoir, je
mais
crois,
il faut une trêve définitive,
pendant la guerre de 14, un soir de Noël. Mais je n'y crois absolument pas. Déjà, vu les écarts diplomatiques qu'il y a avec la Russie en ce moment, vu les écarts diplomatiques qu'il y a en ce moment avec certains pays du Golfe, je pense qu'une trêve, c'est vraiment utopique et je n'y crois absolument pas. Bien sûr qu'on rêverait tous que les combats s'arrêtent, mais que les combats s'arrêtent définitivement, pas uniquement pendant le mois des Jeux Olympiques. Donc, je crois que ce sont des paroles qui sont faciles à dire. Une fois de plus, Emmanuel Macron fait donne de la voix et, je dirais, parle, mais c'est gratuit et ça ne servira à rien.
Vous, qu'est-ce que ça vous a inspiré, ce terme assez curieux, une trêve olympique, voilà. On arrête tout pendant 15 jours et ça sous-entendrait qu'on reprend après.
Alors, sur la philosophie originelle des Jeux Olympiques, où on était tous ensemble, ça se voulait...
C'est un moment de fraternité entre les peuples.
Exactement, un moment de fraternité, un moment de paix entre les peuples. En tout cas, le moment de fraternité, il était là, universel. Là, ça n'a plus de sens de parler comme ça quand on connaît l'ensemble des tensions internationales, l'ensemble des foyers, des interactions entre les uns et les autres, des enjeux financiers. Oui, oui, parce qu'il y a aussi des enjeux financiers. Enfin, est-ce que c'est responsable qu'un président de la République, d'une des plus grandes puissances du monde, puisse dire ça de manière réaliste? Ça, quand même, ça nous interroge sur la confiance dans les paroles de notre président de la République. Vous avez vu aujourd'hui les nominations par rapport aux ambassadeurs et à la diplomatie européenne. Bon, on ne peut pas dire que la France ait été très choyée. Est-ce que ça ne serait pas à mettre en lien avec le discrédit de la parole présidentielle?
Et vous trouvez qu'il bombe un peu le torse alors qu'il n'a pas les moyens de ses ambitions?
C'est tout à fait ça. Et on l'a vu dans les propos qu'il a tenus vis-à-vis de la Russie il y a quelques semaines, et sans tenir compte des autres pays européens. On est quand même à un moment stratégique et extrêmement compliqué dans le monde en ce moment. Et donc, il faut arrêter de faire cavalier seul. Alors, les gens vous diront, oui, c'était une position diplomatique, etc., etc. Maintenant, on voit ce qui se passe. Il y a hier 4 fonctionnaires qui ont été encore renvoyés du Burkina Faso, Manu Militari. On voit que l'Afrique est en train de partir dans la besace russe et chinoise, alors que c'était quand même, il y avait des liens extrêmement forts, et peut-être
historiques et qui
perfectibles,
loin,
c'est
oui.
Certes, mais très forts et historiques. Et on a tout abandonné. Donc maintenant, je crois que il faut arrêter de faire cavalier seul, il faut regarder ce qui se passe en Europe et il faut aller travailler tous ensemble pour essayer d'améliorer les choses. Et ce n'est pas le cas actuellement.
Oui, sans une floreuse, c'est ce qu'il n'affiche pas, je parle d'Emmanuel Macron, des ambitions géopolitiques qui sont inversement proportionnelles au poids diplomatique de la France aujourd'hui dans le monde.
En tout cas, il doit être un président responsable, il nous engage. Ce qu'il a dit effectivement dernièrement sur le conflit russe-ukrainien était assez irresponsable. La diplomatie, c'est quelque chose de sérieux, c'est quelque chose qui prend du temps. Et je ne suis pas certaine, eu égard à ce que nous observons, qu'Emmanuel Macron ait pris la mesure de ce qu'il venait de dire. Et ça veut dire aussi que quelle confiance on peut accorder, nous, Français, en ce président, et comment pouvons-nous le soutenir pour qu'il puisse peser sur la scène européenne et internationale? Enfin, tout est lié. Et effectivement, je crois qu'il n'a pas les moyens de ses ambitions.
Alors, à contrario, il y a une chose qu'on peut peut-être porter à son crédit en termes de réalisme. Il a également déclaré que la cérémonie d'ouverture, vous savez que ça fait peur à beaucoup de gens, elle est prévue sur la Seine, sur les bords de Seine. Et il a indiqué qu'en cas de menace terroriste, qui serait vraiment avérée, mais il me semble qu'elle l'est déjà, elle pourrait être limitée au Trocadéro, cette cérémonie d'ouverture, donc plus sur les bords de la Seine, voire rapatriée dans le Stade de France. Les cérémonies d'ouverture jusqu'à maintenant des Jeux Olympiques, c'est toujours dans l'enceinte du stade dit olympique. Est-ce que ça vous a rassuré de savoir qu'il y avait non seulement un plan B, mais même un plan C, et que Emmanuel Macron les envisageait pour de bon? Il l'a déclaré publiquement cette fois-ci, Sandrine Floreus.
Est-ce que ça rassure? Ben non. Quand on a un plan B, un plan C, c'est que le plan A, il n'est pas sécurisé. Donc c'est plutôt... tout est lié. Hein. C'est, vraiment, je ne sais pas s'il a pris la mesure des effets secondaires de ses propos. Rien n'est rassurant, rien n'est établi, rien n'est stable, que l'on parle de sécurité, que l'on parle de finances. Donc, je crois qu'il faut se taire pendant quelque temps, il faut se taire, il faut laisser agir le comité olympique, il faut laisser agir celles et ceux qui aujourd'hui dirigent l'organisation des Jeux olympiques. Mais en tant que politique, je crois qu'il ferait mieux de se taire.
Vous pensez qu'en annonçant ce plan B et ce plan C, en fait, ce qu'il est en train de nous dire, c'est que bon, ça
veut dire que le plan A ne marche pas, risque de ne pas marcher. Mais on ne parle pas de quelques dizaines de personnes là à sécuriser. On parle de milliers de personnes.
Même de centaines de milliers.
Moi, ce qui me chagrine dans cette histoire, c'est que le plan A est superbe. Et moi, je trouve qu'il y a un plan A. C'est normal qu'il y ait un plan B et un plan C. Ça fait partie des choses normales de quelqu'un qui organise. C'est assez logique. Mais restons déjà sur le plan A, travaillons pour que justement il n'y ait pas de problème sur le plan A.
Ça va Parce que ça n'a jamais été fait. Hein,
et surtout que le plan A, et je rejoins Sandrine, est extrêmement populaire puisque ça va ouvrir la Seine à des nombreux Parisiens et touristes étrangers ou franciliens ou même français qui seront aux Jeux Olympiques. Mais dans ce cadre-là, de commencer à dire effectivement qu'il y a un risque sur le plan A, ça veut dire que les gens, ils ne vont pas se mobiliser, ils ne vont pas venir et puis que la fête va être gâchée. Soyons si positifs, faisons tout pour que les forces de l'ordre soient efficaces, soient là, que les choses se passent bien. Travaillons sur le plan A, on verra après le plan B et le plan C.
Alors, il y a un autre aspect en dehors de la sécurité qui inquiète beaucoup de gens, c'est ce qui concerne les transports. Pendant les Jeux Olympiques, donc lui, Emmanuel Macron, il a dit qu'il avait confiance dans les syndicats et leur esprit de responsabilité, ce sont ses mots. Or, on sait que la CGT et FO, par exemple, ont déjà déposé des préavis de grève pendant la période des Jeux. Est-ce que vous pensez, comme Emmanuel Macron, que les organisations syndicales vont s'abstenir de bloquer les transports pendant les JO pour, je reprends là l'expression de Jean-Baptiste Corail, pour ne pas gâcher la fête ? Sandrine Floreus.
Ah, c'est un moment exceptionnel de rapport de force quand on veut négocier. Donc je pense que chacun est dans son rôle. On ne peut pas reprocher aux organisations syndicales d'avoir déposé des préavis de grève dans la mesure où c'est un moment tellement exceptionnel que forcément la négociation pour le coup sera ouverte. Donc chacun est dans son rôle. Après, est-ce qu'ils iront jusqu'au bout ? Honnêtement, j'espère que les négociations se passeront bien parce que ce n'est pas souhaitable, parce qu'on impacte des centaines de milliers de personnes et que si on veut respecter cet esprit de fraternité et de fête universelle, il faut que ça soit le cas. Il y a suffisamment de contraintes, on vient de parler de la sécurité à surmonter. Donc sachant que dans les transports, il n'y a pas que des touristes et des hommes et des femmes qui ont les moyens d'aller voir les Jeux Olympiques, il y a aussi beaucoup de Franciliens qui travaillent. Donc si on pouvait éviter de mettre à mal et ceux qui travaillent et ceux qui ont envie de profiter de la fête, il faut que les négociations se passent bien, mais chacun est dans son rôle.
Sans parler de l'image que ça donnerait de la France. Jean-Baptiste Scorail.
Moi, je suis très choqué par la façon dont les organisations syndicales se comportent. Je trouve que j'ai jamais été dans les rapports de force. Donc c'est quelque chose qui me gêne. Moi, je suis plutôt construit comme un négociateur. Mais là, d'arriver en disant « on va mettre un préavis », ça me choque. Ça me choque vis-à-vis de l'étranger, vis-à-vis des touristes, vis-à-vis des Français, vis-à-vis des Transiliens. Excusez-moi. Tout ça, je trouve ça extrêmement choquant. Je comprends ce que dit Sandrine, mais pour moi, ce n'est pas le moment. Et je trouve que de faire ça, ça donne une image désastreuse de la France, une nouvelle image, le fait qu'on soit capable de faire grève dans un événement populaire de fête mondiale.
Alors, si je peux me permettre, dès qu'on parle de négociation salariale, si on écoute les uns et les autres, ce n'est jamais le moment de négocier.
Là, donc, c'est vraiment pas le moment. Hein,
non, mais ce n'est jamais le moment, si on écoute ceux qui ne sont pas contents des syndicats, de négocier. Donc, moi, je trouve que ce qui serait désastreux, c'est qu'il n'y ait pas de négociation. Et que ça se passe mal, que ça mette à mal et les travailleurs du quotidien en région parisienne et les Jeux Olympiques. On est d'accord. Mais chacun est dans son rôle et les syndicats sont dans leur rôle en posant un préavis de grève. Parce qu'autrement, des bons moments pour négocier les salaires, il n'y en a jamais. Mais on y reviendra quand on parlera de notre second sujet.
Alors, nous venons de récupérer Sébastien Nadeau qui arrive. Là, je lui laisse le temps juste de prendre ses marques. On abordait le sujet des transports à Paris pendant les Jeux Olympiques, Sébastien Nadeau, et Emmanuel Macron a déclaré qu'il avait confiance dans les syndicats, leur esprit de responsabilité pour que ça se passe bien et pour que les préavis de grève déjà déposés par la CGT et FO pendant la période des Jeux finalement soient levés. Est-ce que vous avez autant confiance qu'Emmanuel Macron dans les organisations syndicales et dans le fait qu'elles s'abstiendront de bloquer les transports pendant les Jeux Olympiques ?
Moi, je crois que, de manière simple, en bonne intelligence que nous sommes, Français, au bon moment, on va trouver les bonnes solutions. Alors là, on est dans un autre moment, on est dans le moment où arrivent les élections européennes, où il y a beaucoup de conflictualité sur plein de sujets. On fait monter les enchères, mais on sera sur une autre temporalité cet été. On est sur une compétition. C'est pas Emmanuel Macron qui a fait arriver les Jeux Olympiques en France. Ça s'est déployé bien avant, dans un moment où on réfléchissait peut-être différemment les choses. C'est vrai que c'est un événement que c'est compliqué à organiser, qui nécessite des infrastructures importantes, qui aurait nécessité une meilleure entente, surtout entre la mairie de Paris, la région Île-de-France et le gouvernement. Ça s'est pas très bien passé entre eux. C'est un petit peu là que c'est dommageable. Après, que les syndicats montrent un petit peu les biceps en ce moment, je pense que c'est quelque chose qui est, qui est normal.
Que c'est de bonne guerre, vous voulez dire?
Oui, c'est de bonne guerre, mais c'est un peu plus. C'est, on va être à un moment de forte exposition au monde. Est-ce qu'on a envie de montrer que la France sait les grèves, etc. Ou est-ce qu'on a envie de montrer autre chose? Je pense que, y compris des gens qui sont très en colère contre le gouvernement, il y a un moment où on a envie de montrer autre chose. Moi, j'ai cette confiance, mais pas du tout avec le même regard que celui du président de la République, qui là, c'est limite provocateur dans la manière dont il dit tout ça. Mais bon... moi, je crois que à ce stade, au moment où on en est, les syndicats, ils jouent leur rôle. Et on attend quand même quelque chose d'intelligent au bon moment de leur part et qui fasse monter la pression, somme toute. C'est un petit peu vieux comme le monde, cette histoire.
Oui, mais ça donne une image catastrophique au reste du monde, quoi. Donc, je pense qu'il y a un moment où ça aurait dû être fait avant. Et ce n'est pas quand on est au pied de l'obstacle que l'on fait. Alors effectivement, c'est du chantage, entre guillemets. C'est le moment, vous le dites,
pour ça que
de
c'est
de
bonne
négocier.
Guerre,
bon. Mais bon.
Alors, il y a une autre annonce d'Emmanuel Macron, et Sandrine Floreus y a fait allusion en début d'émission. Il a dit, lui, il a assuré que lui-même se baignerait dans la Seine et que le triathlon, les épreuves de natation en eau libre ont bien lieu dans le fleuve. Pendant les Jeux Olympiques, alors récemment, on le sait tous, il y a la présence de bactéries qui a été révélée à des niveaux supérieurs aux normes définies par la Fédération internationale de natation dans la Seine. Bon, ça montre, d'une part, malheureusement, que le niveau de pollution de la Seine à Paris, malgré les investissements très importants, il y a 1 milliard d'euros qui ont été investis pour assainir l'eau du fleuve, mais malheureusement, ça reste toujours très pollué. Et d'autre part, est-ce qu'il est raisonnable de maintenir coûte que coûte le déroulement de ces épreuves sur le cours de la Seine dans ces conditions? Je redonne la parole tout de suite à Sébastien Nadeau.
Bon, écoutez, là, sur cette question-là, d'abord, moi, j'ai tendance à penser qu'Emmanuel Macron ne serait pas sa première promesse non tenue. Donc, ce n'est pas un problème qui s'engage de cette manière. Ça, c'est un petit peu pour plaisanter. Après, le sujet, là aussi, est difficile. C'est un investissement qui est extrêmement important, qui a été fait. Les résultats sont pas là, en tout cas, sont pas suffisants. Et en plus, avec des moments climatiques dont on ne sait s'il pleuvra fort juste avant ou pas, et qui font qu'il y a des impondérables. Mais vous savez, quand on fait, moi je suis sportif, hein, quand on fait des activités en eau libre, des activités de pleine nature, il y a toujours des impondérables. Donc dire la Seine sera parfaite le jour de l'épreuve, on ne peut pas le savoir à l'avance. Donc imaginez une solution de repli au cas où on fait les tests la veille, on voit que c'est la catastrophe. Bon, évidemment qu'on nage pas, qu'on n'envoie pas les nageurs dans la Seine à ce moment-là. Que le président se baigne dans la Seine un de ces jours sur le mois d'août, on va quand même espérer, ou le mois de juillet, qu'il y a un jour où il peut se baigner et que ça ne mette pas en péril sa santé. Donc tout va bien, son engagement, il peut le tenir. S'il y a une solution de rechange au cas où vraiment la Seine soit en situation
de catastrophe. Je suppose qu'elle est déjà prévue, la solution de repli, forcément.
Du coup, je pense que c'est quand même vraiment quelque chose d'assez anecdotique. Qu'on met encore sur cette organisation des Jeux Olympiques. C'est un événement d'une complexité folle. À mettre en place les questions de la sécurité, on y viendra, j'imagine.
Alors, on en a déjà parlé.
Pardon. C'est un challenge assez extraordinaire. On pense ce qu'on veut. On a les Jeux Olympiques à Paris. C'est bien, c'est pas bien. La question, elle est tranchée.
On les a.
Donc, il faut que ça se passe. On a un challenge qui est extrêmement important devant nous. Qui est un challenge qui ressort pas seulement de la ville de Paris, qui ressort de tout un pays. Il y a plein de sites de compétition ailleurs. Moi, je vais voir du foot à Marseille. Voilà. En tout cas, on peut être toujours sur l'aspect critique à tout moment, sur toutes les choses, sur tout ce que dit le président. Le président de la République, il ne va quand même pas se priver de communiquer sur les Jeux Olympiques qui sont dans son pays. Enfin, c'est quoi cette histoire? Donc moi, qui disent « je veux me baigner dans la Seine », bon, ouais, il y a un précédent, il y a Jacques Chirac qui l'avait annoncé.
Voilà ce que j'allais dire.
Et donc, pas fait allusion, c'était
voilà,
80,
il va avoir ce moment avec Notre-Dame qui sera pas tout à fait visitable, mais qui sera quand même... avec ses plus beaux atours, et lui, il dit « je vais me baigner dans la Seine ». Bon, c'est un homme de communication, il fait de la com. Si ça fait plaisir aux Brésiliens de voir le président de la République se baigner dans la Seine, tant mieux. Moi, j'y vois pas un problème. La question, c'est est-ce qu'on arrivera un jour à ce que les grands fleuves en France redeviennent suffisamment sains pour qu'on puisse se baigner dedans? Ça, c'est une vraie question.
Qui
ne sera pas tranché par les Jeux Olympiques.
Elle est beaucoup moins sale aujourd'hui.
Voilà,
la plupart des fleuves sont bien moins sales
par
rapport à aujourd'hui qu'à la fin des années 60.
J'ai vu un reportage où des Parisiens disaient qu'ils se baignaient dans la Seine. Alors, je crois que c'était en amont de
Paris.
Ah,
ben c'est sûr que
mais,
en amont, il y en avait de Paris.
Ils se baignaient, et en aval, effectivement, la cathédrale.
Dans le canal de Lourdes aussi, il y en a un qui le font.
Je rappelle qu'effectivement, moi, ce que je regrette, c'est que Jacques Chirac, donc dans les années 90, avait dit qui se baignerait, bon, il ne l'a pas fait, mais ils n'ont pas aussi entretenu la Seine pour qu'elle devienne baignable. Et je le regrette bien, parce que je trouve que c'est un moment extraordinaire. Alors hier, on a posé la question à Laure Manaudou, qui a dit qu'elle ne le ferait pas, parce que voilà, elle n'était pas sûre de ce qu'il y avait dans la Seine, et qu'elle n'aimait se baigner que dans des bassins, artificiels. Mais je trouve ça dommage qu'on n'y arrive pas. Bon, maintenant, continuons à travailler pour que ça se fasse. Ça serait une bonne chose. Après, est-ce qu'un bain va produire des problèmes énormes sur les gens qui vont se baigner? Je ne sais pas combien ils seront à se baigner, mais enfin bon, je suis un peu d'accord avec vous, ce ne sera pas dramatique.
C'est-à-dire qu'il y a des épreuves en olive qui sont très longues.
Je ne connais pas trop.
Il ne s'agit pas de se baigner 5
minutes. Je ne suis pas
spécialiste. Non, mais 10 km en olive,
il nage assez longtemps.
5 minutes.
Bon. Il nage assez longtemps.
Oui, pour revenir sur la question de fond que vous nous posiez, ce que l'on avait pensé de cette intervention, bien sûr que le président doit pouvoir s'exprimer sur un événement exceptionnel que sont les Jeux Olympiques. Ça fait un siècle, quasiment un siècle.
C'était 1924, les derniers
de siècle,
Paris.
Je le comprends, mais est-ce que c'est la bonne temporalité et est-ce que les propos qu'il a tenus, tant sur la question de la sécurité que sur c'est une blague de dire « je vais me baigner » quand on sait que voilà, la Seine est polluée. Tout ce qu'il a dit est de tendance à une forte tendance d'abord à discréditer la parole publique. J'y reviens parce que moi, ça me préoccupe. Ce président discrédite la parole publique. Vous l'avez dit avec beaucoup d'humour et de finesse, il ne sera pas à une promesse non tenue. Mais moi, je crois qu'il discrédite les politiques en général et il aura beaucoup contribué. Et c'est une analyse que j'ai depuis quelques années à l'abstention et au désamour des Français vis-à-vis de la politique, et on pourrait donner des dizaines d'exemples. Donc moi, je fondamentalement, sur la question que vous nous avez posée, je crois qu'il aurait mieux fait de se taire, parce que vous l'avez dit à juste titre, pour être un petit peu impliqué, puisqu'au département, la flamme olympique va venir, c'est d'une très très grande complexité, l'organisation de ces Jeux. Le faire dans une ville comme Paris, la plus grande ville de France, avec les contraintes urbanistiques, de population, de démographie,
etc., de transport,
c'est, voilà, peut-être devrait-il se taire un petit peu en ce moment, c'est pas la bonne temporalité, laisser parler l'ensemble du comité directeur qui connaît les contraintes et qui sait proposer des solutions. Franchement, moi je crois qu'il aurait mieux fait de se taire sur ce sujet. Il inquiète plus qu'il ne rassure.
Alors, moi je suis d'accord avec Sébastien Nadeau quand il dit que c'est normal que le président communique, et il faut qu'il communique sur ce grand événement. Mais quand vous nous dites... il a parlé de se baigner dans la Seine, c'est anecdotique, mais alors pourquoi le dit-il? On peut aussi se poser la question.
Non, mais parce qu'il aime,
il aime lancer un peu à la manière provoque, des challenges.
Vous vous souvenez quand Notre-Dame a brûlé, il a dit dans 4 ans, ce sera réglé.
La promesse a été tenue, c'est vrai.
Parce que l'argent... est arrivé pas uniquement de la France,
oui,
de,
mais
du monde entier.
Fallait-il bien l'utiliser que parvenir à
donc
ce que
donc il
Dame,
aime envoyer des challenges et puis essayer de courir derrière, c'est sa manière, on est dans le sport, il aime ce genre de truc. Moi je le soutiens pas du tout politiquement, hein, donc je parle très librement de tout ça, mais moi je trouve que sur cette question de la scène, c'est pas grave, c'est un petit truc qui vient.
Alors,
et qui
on va parler de choses beaucoup
on verra,
plus
certes, hein. Rendez-vous est pris, on verra.
Bien sûr, peut-être que l'avenir lui donnera raison. Là, on va parler de choses beaucoup plus sérieuses. On va parler du financement de ces jeux, parce que sa fameuse phrase « les jeux financent les jeux ». Bon, l'organisation des JO, je précise, hein, c'est financé par les sponsors en partie. Mais tout ce qui relève des infrastructures, tout ce qui est construit pour les Jeux Olympiques, et spécialement pour les Jeux Olympiques, c'est le contribuable, ce sont les finances publiques. Donc le coût pour l'État à ce jour, et collectivités locales, avait estimé à 2,4 milliards d'euros, mais selon Pierre Moscovici, le président de la Cour des comptes, lui, ça serait plutôt 3 milliards d'euros. La facture totale, ça approche les 9 milliards d'euros, et ça devrait même dépasser les 10 milliards d'euros lorsque tout aura été pris en compte. Alors, est-ce que vous avez le sentiment qu'Emmanuel Macron est réaliste en promettant que les Jeux financeront les Jeux, ou est-ce que vous trouvez que là encore, il est peut-être un petit peu présomptueux lorsqu'il affirme cela?
Ce serait la première fois quasiment dans l'histoire que les Jeux financent les Jeux. Donc ça, oui. c'est faire croire qu'on organise une autre compétition que les Jeux Olympiques. C'est toujours déficitaire. Le Canada a mis 45 ans à rembourser la dette qu'il s'était fait sur l'organisation des Jeux Olympiques. Donc non, c'est pas vrai. Bien sûr que le contribuable va participer pendant un certain nombre d'années. Est-ce que les transformations qui vont être induites par les Jeux Olympiques, qui sont des transformations qui sont multiples, c'est pas seulement une nouvelle ligne de transport, c'est aussi qu'est-ce qu'on a pu implémenter dans la tête de jeunes qui va faire que, plutôt que de regarder un jeu vidéo, il va se mettre à la pratique du sport. Cool. Et donc, de là, participer d'un effort de santé publique qui fait défaut dans tous les pays occidentaux
et à l'heure
actuelle.
Et aussi utiliser les infrastructures qui ont été construites.
L'investissement Jeux Olympiques, vous aurez toujours une bataille des chiffres, une bataille du bilan, sur les retombées, quelles sont les bonnes retombées. Donc ce sera extrêmement difficile à mesurer. Sur la question du financement des Jeux Olympiques seulement par les partenaires privés, là tout de suite la réponse elle est évidente, c'est non. Le contribuable va financer une partie des Jeux Olympiques, c'est comme ça, mais enfin... C'est pas possible de penser autrement, puisqu'on a quand même l'expérience de tous les Jeux Olympiques précédents dans les autres pays. Le village olympique de Rio, c'est devenu un désert, un no man's land.
Oui, oui.
Est-ce que celui-là va bien servir comme c'est prévu, etc. Donc, y a plein de paramètres qui vont faire qu'on arrive à ce que ce ne soit pas un échec une fois passés les Jeux Olympiques. Moi, j'ai tendance à dire que ça dépend si on s'arrête le jour de la fin des compétitions paralympiques, on dit « ça y est, c'est fini, on tire le rideau, on veut plus
chose.
En entendre parler ». Là, certainement qu'on aura bien planté, y compris au niveau des finances publiques. Donc la question, c'est comment on va réinvestir sur le long terme cet événement pour que ça se traduise. Vous savez, il n'y a pas que l'argent dans la vie, il y a des transformations sur les individus qui sont importantes. Est-ce qu'on va réussir
l'élan,
des transformations
l'élan, l'élan, ça peut donner,
est-ce que ça va changer l'allure de la Seine-Saint-Denis? Enfin, je veux dire, c'est un secret pour personne. Vous travaillez au département de Haute-Garonne, vous savez que sur tous les tableaux de toutes les questions sociales, la Seine-Saint-Denis, c'est toujours en rouge. Bon, est-ce qu'il va se passer quelque chose? Est-ce que ça va changer? Et ce qui ferait qu'on pourrait dire, le contribuable, oui, il a financé, mais ça a fait évoluer positivement à tel et tel endroit, éventuellement des endroits qu'on n'avait pas forcément les plus anticipés au départ. Donc la question, les JO financent les JO, c'est une hérésie de dire ça. Enfin, il ne faut rien connaître à l'histoire des Jeux Olympiques et des modalités de financement. Donc là, le président de la République, il aurait mieux fait de mieux lire ses fiches et puis de ne pas s'avancer. Franchement, c'est pas possible de dire une chose comme ça. C'est pas sérieux. C'est vraiment pas sérieux. Donc là, pour le coup, je trouve que c'est beaucoup plus léger et inacceptable que se baigner dans la Seine. Sur la question de est-ce que ça valait le coup finalement, parce que c'est ça la question en arrière-plan, est-ce que ça valait le coup d'organiser ces Jeux? C'est sûr que quand on regarde ce que ça coûte en termes environnementaux, faire venir tous ces avions pour ces rassemblements, mais c'est le modèle même des grandes rencontres sportives qui est interrogé à travers ça. Maintenant qu'on a eu une prise de conscience sur tout ce que ça peut coûter, est-ce qu'il faut rester sur la même organisation? Enfin voilà, ça pose des questions. Mais sur le financement dans la durée, est-ce que ce sera positif? Est-ce que ce sera... hyper négatif comme ça a pu l'être au Canada quand même.
Oui, oui, oui.
Londres, c'est quand même très très mitigé également. Donc,
Et Rio, bon.
Ah ben là, c'est une catastrophe.
C'est une catastrophe, on le sait. Alors, Jean-Baptiste
Moi, ce qui m'intéresse dans l'organisation de ces Jeux, c'est qu'il y a eu une utilisation des locaux et des. Déjà présents. Quand on voit l'utilisation du Grand Palais pour l'escrime, quand on voit l'utilisation, je crois, du Grand Stade, du Stade de France et beaucoup de choses. Donc on a essayé quand même de minimiser effectivement la construction de nouveaux stades, etc., de nouvelles infrastructures, ce qui est une bonne chose. Effectivement, l'arrivée de touristes, mais enfin, vu la peur qu'on donne aux touristes, je ne sais pas s'il y en aura beaucoup, j'espère, devrait apporter économiquement beaucoup de choses à la région parisienne et à l'ensemble de la France, puisque beaucoup de villes sont impactées ou vont être impactées par les Jeux Olympiques, et tant mieux, les Jeux Olympiques, et tant mieux. Mais effectivement, est-ce que de savoir si ça va être une opération blanche, on l'espère, mais je suis d'accord, je n'y crois pas trop. Mais ce que je vois, c'est quand même qu'il y a eu une vraie idée d'économie, de faire des Jeux olympiques qui soient ouverts et qui limitent la construction d'infrastructures nouvelles, et tant mieux. Et effectivement, il y a des signes forts comme la construction, en Seine-Saint-Denis, du lieu où vont habiter les athlètes.
Le village olympique.
Et c'est une très bonne chose, et je pense qu'effectivement, symboliquement, j'espère qu'on va pouvoir en tirer quelque chose.
Sandrine Floreuse, pour terminer sur le sujet.
Oh, tout est dit, surtout sur la suite. Donc, 9 milliards d'investissements, effectivement, est-ce que demain, on va donner envie à des générations de se mettre au sport? On développe beaucoup le sport santé. Est-ce qu'on en aura les moyens? Parce que ça se chiffre quand même en décennies de remboursement. Et dans une période où nous sommes tous soumis à des restrictions budgétaires.
C'est vrai que le timing pour ces timing, jeux n'était pas le meilleur, mais bon,
Voudrais pas être négative. Moi, j'ose espérer qu'on va créer une vraie fête populaire. Le passage de la flamme en Haute-Garonne se veut être un moment de liesse, intergénérationnel, et j'espère que ça sera le cas. À aujourd'hui...
Est-ce que vous sentez un engouement aujourd'hui dans notre pays pour ces Jeux, alors que c'est dans 3 mois, hein, ça va vite arriver?
Je crois que les Français... véritablement d'autres sujets de préoccupation. Mais peut-être parce que nous sommes au mois d'avril et que les Jeux ont lieu au mois de juillet. Donc voilà, à chaque moment, sa temporalité. On n'est pas dans les européennes et pourtant, elles ont lieu au mois de juin. Donc voilà, mais on n'est pas dans le même niveau d'engouement. On est d'accord. Mais pour autant, j'aimerais que ça soit une fête populaire, et vous avez raison, vous disiez j'aimerais que les jeunes se mettent plutôt au sport et quittent leurs jeux vidéo. Moi aussi, j'aimerais qu'en Seine-Saint-Denis, ça soit une révolution culturelle qui s'opère, ça serait formidable.
Vous le sentez l'engouement, vous, Sébastien Nadeau?
Moi, j'ai des enfants et moi, c'est les enfants qui m'informent sur les Jeux Olympiques actuellement. Donc, je me dis qu'il se passe quand même un truc et que c'est assez intéressant de ce point de vue. C'est vrai que quand on discute avec les adultes, je n'ai pas trop ce sentiment encore.
Je pense qu'il y a 20 ou 30 ans, on aurait eu les Jeux en France. Déjà 6 mois avant, tout le monde aurait parlé de ça. Quoi, hein.
Mais là, c'est le tempérament français. C'est, tant qu'on n'y est pas, on est très critique. Mais il faut se remettre. Moi, j'ai toujours un repère. J'avais travaillé un petit peu sur le sujet quelques mois avant la Coupe du Monde en 1998
oui,
en France.
Oui.
Alors, bon, d'abord, on allait perdre au premier tour. le Stade de France, c'était pas bien. Il y avait plein de choses qui allaient mal.
Ça, c'est les Français.
Tout était mais reprenez la presse deux ou trois mois avant, tout était au noir.
Il faut se rappeler ce qu'Aimé Jacquet pouvait prendre dans la presse à l'époque.
Et puis il se passe ce qui se passe. Donc je pense qu'il ne faut pas trop donner d'importance au moment. Il y a toujours eu des réfractaires sur les grandes temporalités sportives, parce qu'il y a toujours des gens qui n'ont pas compris que le sport, c'est aujourd'hui certainement le phénomène culturel le plus puissant de la planète. Donc c'est pas rangé dans la culture, le sport, vous avez déjà remarqué. Alors qu'on prend toute définition de la culture, le sport est culture. Mais c'est pas grave, comme c'est un petit peu un truc du muscle, c'est un peu pour des gens un peu bêtes, un peu inférieurs, donc on le met ailleurs. Mais il n'empêche qu'on a ce plus grand moment de culture. Et les Jeux Olympiques, parmi les grands moments de culture, sont le sommet.
Sportif,
on a ce plus grand moment de culture qui est dans notre pays, qui a une histoire.
Il y a 100 ans qu'on l'a pas eu,
si on fait
et
un
c'est
petit...
la France qui a relancé les Jeux en 1896.
Exactement. Qui a une histoire, si on fait un petit saut de lapin, remonte en 786 avant notre ère, on a les Jeux Olympiques. Oui. Donc, vous voyez, il y a un continuum, il y a quelque chose d'anthropologique qui est magnifique. Il faut se battre. Moi, je pense que tous les jours, il faut sortir les côtés positifs de la chose. Il y aura des choses négatives, c'est inévitable. Mais il faut en tirer les bonnes choses. Et le sport, la compétition, le spectacle, parce qu'il y a des pratiques de spectacle. Hein. Le hip-hop, ça vous a pas échappé que c'est pas une compétition au sens strict du terme. Donc il y a des choses intéressantes qui se profilent.
C'est devenu très large maintenant.
Donc soyons optimistes quand même.
Alors vous avez mis le doigt sur quelque chose d'important en faisant référence à 1998, parce que la réussite de ces Jeux aussi va être conditionnée, moi il me semble, par la réussite des sportifs français. C'est aussi si on arrive à avoir des athlètes qui ont des médailles, et qu'il y en a beaucoup. Moi, je compte beaucoup sur un petit Toulousain qui s'appelle Léon Marchand. Justement, je ne comprends pas qu'il n'ait pas été désigné porte-drapeau, parce que c'est lui, pour moi, c'est lui qu'il fallait absolument désigner. C'est le meilleur de son sport actuellement au monde, et c'est une des principales disciplines olympiques, la natation. Donc, espérons que nos athlètes vont rapporter des médailles, et c'est ça qui créera un élan, et qui fera peut-être passer la facture.
Qu'à Montréal, je crois qu'il n'y avait que Guy Drucq qui avait eu une médaille. Hein, donc,
en athlétisme, oui.
Oui, non, même sur toutes les Jeux Olympiques,
d'or. Il y avait d'autres médailles.
Oui, mais enfin, une médaille d'or. Donc, maintenant,
il y avait une médaille d'or aussi en équitation, au moins une, et sans doute d'autres.
C'est possible. Mais on a quand même bien évolué, et j'espère que dans beaucoup de sports, nous aurons des médailles d'or.
Les Français avec les champions olympiques d'équitation.
On aura beaucoup de médailles en paralympique. On a des sportifs paralympiques qui sont bien préparés. Et vous verrez, on va avoir des belles surprises. Et au demeurant, c'est un sacré spectacle. Si vous regardez, là, il y a très récemment, il y avait du handi fauteuil, là, les qualificatifs. Oui. Là, franchement, moi, je suis basketteur, hein, mais quand je les vois sur les fauteuils en train de jouer, c'est extraordinaire.
L'escrime, c'est pareil.
C'est ultra physique,
ça reste
sacrément.
De la compétition, c'est technique, c'est
donc,
physique, quel que soit le.
Il ne faut pas oublier cette deuxième partie. Et pour moi, ce sera une des conditions clés de la réussite. C'est si on réussit bien nos Paralympiques, même si on n'a pas tant de médailles que ça, on aura réussi les Jeux, parce qu'on aura fait des Jeux pour tous. On les aura vraiment fait. Il y a les femmes, il y a les hommes, il y a les Paralympiques. Jusqu'à présent, les Paralympiques. Ouais, moi, j'étais dans le débat à l'Assemblée au moment sur les dates, le choix des dates. Moi, j'étais partisan de mettre les Paralympiques en même temps. Mais j'ai été convaincu par Tony Estanguet. C'est vrai que la question, c'était oui, mais si on met toutes les compètes en même temps, on va exploser, ouais. Ça fait trop. Donc, cette temporalité, finalement, elle était plus intelligente. Vous voyez,
c'est dans la continuité.
Que les politiques, ils peuvent dire que ce qu'ils pensaient, c'était pas bon. Enfin, bref. Mais. Les Paralympiques, oui, ce sera une des conditions de notre réussite.
Et dans la traversée de la flamme, moi j'ai eu la chance d'avoir une nièce qui est trisomique, qui est judoka, qui va porter la flamme. Et ce qui est génial, c'est ça, c'est extraordinaire. Donc elle est dans un club à Paris, et c'est extraordinaire parce qu'ils vont être mis en même temps que des gens qui sont, entre guillemets
valides.
Normaux ou valides. Bon, je mets ça entre guillemets, bien entendu. Et je trouve ça génial. Et là, effectivement, si on réussit cette chose-là, ça sera exceptionnel.
Ça sera vraiment les Jeux de l'inclusion, pour le coup. On va arrêter là-dessus, parce qu'on a un deuxième sujet. Il va être court. On aura l'occasion de reparler des Jeux Olympiques, je pense, d'ici cet été. En attendant, courte pause musicale d'une vingtaine de secondes avant de reprendre notre discussion sur un autre sujet d'actualité. Restez bien à l'écoute de Radio Présence. À tout de suite.
La mêlée de l'info, Éric Dupri.
Retour à l'antenne avec mes trois invités, Sandrine Floureux, Sébastien Nadeau et Jean-Baptiste de Scorail, à qui je propose de débattre maintenant d'une polémique telle qu'il en surgit à intervalles réguliers dans notre pays dès qu'il est question de la rémunération des grands patrons. Il a en effet été annoncé en début de semaine que les actionnaires de constructeurs automobiles Stellantis, alors Stellantis est né de la fusion entre PSA et Fiat Chrysler. Donc Stellantis, les actionnaires ont approuvé à 70% des voix la rémunération de Carlos Tavares, directeur général du groupe, qui pourra atteindre 36,5 millions d'euros pour l'année 2023. Je rappelle qu'il avait déjà touché 23,5 millions en 2022 et 19 millions en 2021. Cette annonce, comme on pouvait l'imaginer, a suscité de nombreuses et vives réactions, comme souvent donc lorsqu'il s'agit des salaires et primes des grands patrons. Est-ce que vous êtes de ceux qui trouvent indécent un tel niveau de rémunération et qui comprennent cette polémique? Ou estimez-vous plutôt qu'elle ne regarde que les actionnaires du groupe Stellantis qui ont le droit de rémunérer comme ils veulent, quels que soient les chiffres concernés, un directeur général qui gère bien son entreprise et qui atteint largement, voire qui dépasse, les objectifs qu'on lui fixe? Jean-Baptiste de Scorail, vous êtes cadre vous-même dans une grande société. Alors,
moi, ce qui me choque, c'est le fait que les gens sont, entre guillemets, très focus. Il faut arrêter, et je suis un peu vulgaire en disant ça, mais il faut arrêter de pleurer à 18h sur le salaire de Carlos Ghosn, Carlos Tavares, pardon. Parce que
c'est on un parlait, vrai sujet,
Carlos Ghosn. C'est sujet, pas le même sujet, parce qu'ils n'ont pas la même... effectivement, c'est un petit peu un lapsus, à qui on donne un salaire de 36,5 millions d'euros, qui est quand même la moitié du salaire de M. Mbappé. À 20h, les mêmes auraient pu crier en disant « Ben, si Carlos Tavares n'avait pas repris le groupe, il y aurait eu 242 000 chômeurs quasiment sur l'Europe en plus ». Et à 22h, tout le monde va crier « Vive Mbappé » parce qu'il a marqué 4 buts.
Parce qu'il a qualifié le PSG en
demi-finale. Sauf que de Mbappé, son salaire, je le rappelle, c'est 72 millions d'euros. Donc, il y a quand même un problème là-dessus. Donc, arrêtons de se braquer sur ce salaire-là. D'autre part, il y a eu aussi une redistribution, et ça, c'est important de le dire, quasiment de 6 000 euros à chaque salarié du groupe. 6 000 euros, ce n'est pas rien. Quelqu'un qui touche le SMIC, c'est quand même beaucoup pour lui, 6 000 euros. Donc, je ne veux pas dire qu'effectivement, il n'est pas à plaindre, mais cette rémunération, déjà, est une entreprise qui est aux Pays-Bas. Donc, cette rémunération est une rémunération d'entreprise privée. C'est quelqu'un qui est capable de gagner 11 millions d'euros de salaire fixe, je crois. Hein, et donc, quand ça va... Eh ben, on lui donne quelque chose, et quand ça ne va pas, eh ben, il ne touche rien. Et donc je trouve que quand même, d'aller critiquer effectivement cette façon de payer nos grands patrons, moi, c'est complètement, ça me choque. Et d'ailleurs, ceux qui ont dit, et je m'en souviens que M. Hollande avait dit que son adversaire c'était la finance, ils n'ont rien fait pour miniser les salaires des grands patrons. Donc il y a un moment où il faut aussi se regarder en face. D'autre part, moi quand je regarde le salaire de Thierry Breton qui travaille pour Atos, qui Atos fait des déficits depuis des années, et qui touche encore 3 millions d'euros, je crois, par an, ben, il ne devrait pas toucher 3 millions d'euros. C'est l'État qui le paye, il devrait toucher peut-être 500 000 ou 600 000 euros parce que l'entreprise ne gagne pas sa vie. Il faut voir ce qu'a fait Carlos Tavares, il a sauvé Opel, il a sauvé Peugeot, et donc il n'aurait pas été là. On aurait peut-être 242 000 chômeurs, on aurait une situation économique de l'automobile qui est le phare en France, qui serait complètement détruit. Donc arrêtons de crier au loup, et d'ailleurs peut-être regardons d'abord les salaires effectivement de nos footballeurs qui pendant 10 ans ne font que qualifier un club, mais qui ne sauvent pas 242 000 emplois.
Alors, je vais juste préciser concernant la hausse entre 23,5 millions en 2022, donc 36,5 millions en 2023. Là-dedans, il y a le versement d'une prime de 10 millions d'euros pour la transformation du groupe, donc qui a été créé en 2021 avec la fusion de PSA et de Fiat Chrysler. Et la rémunération de Carlos Tavares intègre également des pensions de retraite qui sont versées sur le long terme et des bonus attribués seulement s'il atteint les objectifs fixés. Alors cette fois-ci, ce sera pour 2025. Bon, Sandrine Floreux, je pense que vous n'êtes pas tout à fait sur la même ligne que Jean-Baptiste de Scorail sur cette affaire.
Je pense que la question que vous avez posée dans votre exposé, la question centrale, c'est est-ce que ça concerne uniquement les actionnaires et finalement les salariés uniquement de ce groupe ? Ben non. Bien sûr que non. La porosité entre les financements publics et les financements privés, elle est évidente. Aujourd'hui, la question fondamentale, c'est bien sûr que c'est choquant, 36 millions. Bien sûr que c'est choquant, quel que soit le brio, l'intelligence, la capacité à trouver de bonnes stratégies pour sortir son groupe des difficultés. C'est un salaire qui est totalement indécent, mais totalement indécent, bien évidemment. Moi, ce qui m'interroge en tant que politique, comme tout le monde ici, c'est aujourd'hui comment on réfléchit à un véritable système de redistribution, comment on travaille sur la fiscalité. Quel est le pourcentage de fiscalité d'Mbappé par rapport à Carlos Tavares ? C'est intéressant de savoir ça. Quand on nous a annoncé il y a quelques années, quand elle était encore vivante, quel était le taux d'imposition de la femme la plus riche de France, Madame Bettencourt, qui possède L'Oréal, et qui était un taux d'imposition entre les niches fiscales. Alors, je ne parle pas d'évasion fiscale, parce que ça, ça serait idiot de parler de ça, mais ça existe, l'évasion fiscale. C'est pas un sujet qui doit être
chiffré par certains experts.
Exactement. Oui. Son taux d'imposition était de entre 3,5 et 4%. C'est-à-dire que cette dame, qui gagnait des millions d'euros par an, de par ses actionnaires, payait moins d'impôts que moi, qui ai un salaire inférieur très...
En pourcentage, évidemment.
En pourcentage.
Très, très inférieur, oui. Voilà. Donc, en fait... j'aimerais mieux avoir les revenus de Liliane Bettencourt. Ce que je veux dire à un moment donné, c'est que ce qui est acceptable, c'est ce qui est juste. Si on avait des systèmes de redistribution et si on avait une fiscalité juste, rien ne serait choquant. Mais ce qui n'est pas acceptable, c'est l'injustice fiscale et c'est l'incapacité à reproduire parce que nous sommes justement dans des sentiments d'injustice.
C'est un vrai sujet, ça, je suis d'accord.
Voilà.
Carlos Tavares, ce qu'il a dit, c'est que si vous estimez que c'est pas acceptable, vous avez qu'à faire une loi, vous modifiez la loi et je la respecterai. Bah, évidemment, il sera bien obligé.
C'est tout un système qu'il faut modifier,
mais
les fiscalités.
Le président le groupe socialiste à l'Assemblée, Boris Vallot, lui, il annonçait qu'il allait redéposer une proposition de loi pour limiter les écarts de revenus dans les entreprises.
Et
le président Hollande, il avait quand même dit que c'était la finance, c'était son ennemi.
Mais il a fait des choses. On en reparlera, Eric. Il faut nous réinviter là-dessus.
Il a nommé M. Macron comme ministre des Finances.
Sébastien Nadeau, rapidement, 3 minutes.
D'abord, Mbappé est un des plus gros contribuables en France. Donc moi, je suis désolé et désespéré qu'il
Voilà.
Non, ça c'était pour la boutade, mais cette question, elle revient tellement régulièrement. Mais on est dans un monde capitaliste. Bon, soit on décide de vivre comme la Corée du Nord et avec un fonctionnement qu'il faut inventer à la communiste de maintenant, etc. Moi, je suis pas hostile, hein, mais on est dans un monde. En plus, le groupe Stellantis. Ce groupe, il échappe quand même en grande partie à la France désormais. Donc, on n'a absolument pas la main, de toute façon, sur cette question.
C'est clair.
Bon, donc après, on peut dire c'est choquant, c'est pas choquant. Moi, je pense que si on veut avoir un discours au moins faisant montre d'intérêt pour ce qui, d'après moi, a de l'intérêt... soucions-nous des gens qui travaillent dans ces entreprises ? Est-ce qu'ils ont mal au dos ? Est-ce qu'ils sont pétés de partout à 50 ans et on leur a prolongé la retraite ? Ou bien est-ce qu'ils vont avoir tous les ans 6 000 euros de plus, ce qui fait quelque chose qui fait accepter d'avoir un boulot un petit peu plus difficile.
Je pense que s'ils avaient cette somme-là tous les ans,
voilà.
On serait bien
Donc,
content, oui.
Je pense que dans le système mondialisé capitaliste que nous vivons, il faut se soucier non pas de ceux qui sont tout en haut, tant mieux, ils ont de l'argent, etc. Alors, il y a des jeux de connexion entre tout ça, mais il faut surtout essayer de consolider la position de ceux qui sont tout en bas dans cette entreprise et qui trinquent et qui ont du mal. Et voilà, c'est vers cela qu'il faut réfléchir. Comment on fait Et comment ça se vit dans l'entreprise d'ailleurs, c'est une question. Enfin, moi, je sais pas. Moi, mon idée, c'est
intéressant
c'est que
de poser la question aux gens qui travaillent pour Stellantis.
Le rapport dans une entreprise de 1 à 20, de 1 à 20 me paraît être un rapport déjà très raisonnable. Bon, là, on est à quelque chose de totalement différent. Mais comment dire je m'insurge, etc. Mais bon, matin, quand on se lève, si on s'insurge sur ça, il faut s'insurger tous les jours, c'est comme ça. Et on est dans un modèle qui nous échappe.
Mais pas tant que ça. Pas tant que ça, les politiques doivent servir à ça. Moi, je veux prendre un exemple un peu similaire parce que j'adhère à ce que vous dites sur les conditions de travail des salariés, globalement. On prend l'exemple de Carrefour. Vous avez vu la rémunération aujourd'hui de Bompard ? Mais qu'est-ce qu'on fait des caissières ? Est-ce qu'on se soucie de l'ergonomie, des conditions dans lesquelles elles travaillent ? D'ailleurs, il y en a de moins en moins et on leur demande d'être des agents polyvalents. Moi, je sais, ma fille a fait un job d'été, j'ai regardé un peu comment ça fonctionne. Il faut voir la précarité des contrats de travail. Pour autant, les actionnaires ont alloué à M. Bompard plusieurs millions d'euros encore cette année. Donc effectivement, la question, elle est là. Mais après, moi, je ne partage pas l'idée qu'en tant que politique, on n'a pas à regarder. Pourquoi je disais qu'il y avait une porosité entre financement privé et financement public, tout est lié. Quand il y a eu la crise en 2008, Peugeot, Jean-Baptiste, tu sais combien on a donné de millions d'euros à Peugeot pour ne pas couler ?
Je suis d'accord.
Plus de 360 millions. Et juste, je termine parce que c'est en lien avec notre territoire au Garonnais. Au même moment où on donnait de l'argent public à Peugeot, Molex, qui est une entreprise qui était à Villemur fermée, il y avait besoin d'avoir des contrats avec l'automobile pour ne pas fermer. Et on nous expliquait, vous savez, dans le secteur privé, on n'a pas à recevoir d'ordre du public. Tout est lié.
C'est la fin de cette émission. Je suis obligé de vous arrêter. Le podcast sera disponible dès maintenant sur le site de Radio Présence. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Rendez-vous jeudi prochain. Bonne fin de semaine. Excellent week-end à tous.